spectatrices là, qui sont parties, j'ai échangé quelques mots, qui me disaient qu'elles avaient lu le roman et qu'elles étaient extrêmement déçues par ce film. Bon, je ne sais pas, j'espère vous. En tout cas, moi, c'est un film que j'ai du mal à revoir et à revoir sans être toujours extrêmement ému, quoi. Ben, franchement, bouleversé. Je pourrais dire déchiré. Oui, déchiré, puisqu'au fond, c'est un film qui, dans sa manière de se présenter à nous, se donne comme un film qui est éclaté, hein, comme des morceaux. Hein, morceaux. Toute la question pour nous et pour les gens de cette communauté, hein, au fond, c'est de refaire lien avec ces morceaux du film, avec ces morceaux d'images, de fantasmes, avec ces corps disloqués, avec ces enfants morts éparpillés. Voilà. Et vraiment, nous, on est plongé d'emblée au cœur de cette espèce de fraction comme ça, hein, terrible. C'est à la fois cet accident, mais à la fois la question de cet avocat avec sa propre histoire, à la fois la question de l'inceste. C'est quoi le lien entre tout ça ? Et même le lien temporel, nous-mêmes, on met du temps à situer, hein, un petit peu l'ordre du récit, quoi. On est pris là-dedans, hein, dans cette déliaison, quoi, hein, dans cet éclatement absolu. Voilà. Bon. Alors ces morceaux, on peut d'ailleurs s'en saisir. On s'en saisit dans le film de manière différente. Je crois qu'il y a des personnages qui visent à l'éclatement, hein, qui produisent, hein, cette espèce de. Qui creusent la déchirure. Hein, l'avocat, évidemment. Pas seulement. Mais il y a aussi, bien sûr, ces morceaux, on peut s'en saisir autrement, un petit peu comme de petits cailloux, ouais, dans un conte, dans une comptine. Cailloux blanc, hein, qu'on va essayer de mettre dans son recueillir dans son panier, hein, vous savez, comme des baies, ouais, qu'on va recueillir dans son panier pour finalement les unifier, hein, faire lien, voilà, et renouer avec le fil d'une histoire possible, avec le fil d'un récit possible. Et peut-être en renouant le fil d'un récit possible, eh ben, on va peut-être pouvoir avoir un rapport possible au fond, aux morts, un rapport de vivant aux morts, un rapport de vivant aux morts, c'est-à-dire pas un rapport de mort vivant, justement. Et un rapport de vivant aux morts, c'est la possibilité d'en avoir une image très particulière, une image limite, et d'avoir une image possible des morts. Alors, ça pose, ça, en même temps, la question, parce que cette déliaison, c'est en même temps la déliaison, à la fois, bien sûr, de chaque parent à l'enfant mort, ou à ses enfants morts, d'ailleurs, mais c'est en même temps la déliaison des hommes entre eux. Donc, cette mort, elle pose en même temps la question de la communauté. Comment vivre encore ensemble? Comment vivre tout court? Comment vivre avec ses morts? Mais du coup, comment vivre ensemble? Et c'est pour ça que la question de la loi est si importante dans ce film. Qu'est-ce qui fait tenir les hommes ensemble ? C'est la question de la loi. Bon. C'est la question de l'interdit d'inceste. Aussi. Donc, voilà, la loi des vivants. La loi des vivants dans son rapport aux morts, hein, Et la question de l'inceste.
C'est une très vieille histoire, au fond, hein. C'est l'histoire d'Antigone aussi.
Vous savez, Antigone qui refuse d'obéir à Créon, qui lui, veut faire régner, au fond, hein, la, pour les vivants, hein, la loi de la cité. Quoi. Et Antigone, elle, qui désobéit parce qu'elle veut, elle, respecter les morts, respecter son frère mort et enterrer son frère. Voilà. Bon, résultat, vous savez, elle sera emmurée vivante. Et Antigone, je pense qu'on ne va faire pas ça par hasard, Antigone, c'est la fille d'Œdipe. Oui, donc ce nouage est quand même un nouage qui traverse depuis longtemps notre histoire. Bon. Alors, la loi, quelle loi ? Il est clair que dans ce film, il y a trois types de lois. Hein, une loi qui concerne une loi familiale, on va dire, hein, qui touche l'interdit d'inceste. Il y a une loi incarnée par l'avocat. Certaines conceptions du droit à l'œuvre, hein, dans notre société, aujourd'hui de plus en plus. Hein. Et puis un autre type de loi, hein, je vais essayer d'y venir à la fin, celle qui peut être unie, hein, cette communauté, celle qui est engagée dans une forme de solidarité concrète, hein, du face à face, hein, dans du récit. Bon. Alors, la question d'abord, je crois, c'est un film. C'est quand même comment se représenter, comment avoir rapport, comment ne pas être englouti dans la mort du proche. Donc comment avoir un rapport, c'est-à-dire un lien, hein, aux morts, mais un lien qui soit encore un lien qui permette une vie possible. Et ça suppose la possibilité d'une image. Alors, cette image de l'accident, on va la voir, hein, exactement au milieu du film, même du point de vue de la durée du film, c'est exactement au milieu. Une image très particulière. Et je vous ferai remarquer tout de suite que juste avant l'image de l'accident, qu'est-ce qu'on a ? On a la scène de l'inceste. Juste après l'accident, on a l'avocat Mitchell qui raconte cette scène terrifiante avec sa fille. Bon, alors, si on part du début du film, c'est très étonnant au fond, parce que ce qu'on a, c'est, vous voyez, on a deux séquences, hein, l'avocat dans sa voiture, il va avoir un confier de sa fille, tout ça, et ça se situe, hein, qui va arriver jusqu'au bus, finalement, donc on est situé juste après l'accident. Et puis la séquence qui suit, c'est une séquence dans laquelle on se trouve dans kermesse, grande fête, hein, en préparation. Hein. Et on a donc Nicole, avec une allure particulièrement juvénile, on a l'impression qu'elle a 14 ans, là, hein, qui chante. Et toute cette scène, elle se fait sous le regard du père. Bon, et donc ça, c'est avant. Ouais, donc on a d'abord un avant et après. Et tout le film, tout ce qui va suivre, ça fonctionne comme une espèce d'angle mort, si vous voulez, comme quelque chose qui d'abord est un hors-champ. Et toute la question, ça va être d'arriver, comment dire, à la fois douloureusement, cruellement, mais aussi avec une extrême délicatesse, à ajuster la possibilité d'un regard sur les morts. La possibilité d'en voir, une vision très particulière, mais quelque chose. d'un rapport.
Hein, qui est en même temps la possibilité d'un détachement, mais encore une fois, d'un lien, et d'un lien de vivant.
Bon. Alors, je dirais que d'abord, ce récit, il est quand même initié par cet avocat. Et cet avocat, Michel Stevens, il est, lui, absolument fixé à une image. Il est fixé à une image. Du reste, il ne se rappelle pas du tout. Je veux dire, il est assis à côté de quelqu'un qui, enfant, venait chez lui. Il ne se rappelle pas. Son nom, il ne s'en rappelle pas. Le père de cette femme, son collaborateur, il ne s'en rappelle pas. Pas du tout. L'avocat, c'est quelqu'un qui est figé dans une forme de disparition de sa fille, de ce qu'a été sa fille. Il est pris là-dedans. Il est comme aveuglé. Il est pris dans quelque chose qui ne fonctionne même pas comme une représentation. Dans un lien à cette scène traumatique là, qui règle absolument toute sa conduite. Après, il n'a pas d'histoire. Après, il est dans la déliaison complète. Pas de femme, il n'a pas d'amis. Bon, la marque de la fixité, hein, c'est-à-dire de la mort. Hein. Michel, c'est quelqu'un qui est du côté de la mort. Au fond, c'est un mélancolique. On disait autrement, c'est un grand mélancolique. Vous savez ce que Freud dit hein, sur la mélancolie, c'est cette formule. L'ombre portée de l'objet perdu sur le moi. C'est une identification mort ou disparue. Ici, cette fille disparue, hein, parce qu'elle a été. Alors, les marques de la fixité, elles sont inscrites dès le début. Il est dans cette voiture avec une impression de mouvement. On a une impression de mouvement parce que la voiture, mais en fait, ça ne bouge pas. Hein, parce que la voiture est balayée par ces lamelles en plastique hein, du lavomatique. Il n'avance pas en fait, il n'avance pas du tout. En plus, vous voyez bien ce qui se passe, il s'agit de laver quelque chose. Ça ne cesse pas d'être nettoyé, d'être lavé, mais visiblement ça ne passe pas. Il reste coincé là-dedans. Ça, c'est sa position. C'est quoi sinon, comment on le voit sinon dire, c'est aussi quelqu'un qui est, vous voyez cette scène dans l'avion, là aussi, je veux dire, quand il parle. Ça n'avance pas, ça ne bouge pas, ça ne plan fixe. Il n'y a rien qui indique un mouvement réel. C'est absolument figé. Il y a, je veux dire, tout son rapport d'ailleurs à des habitacles, hein, l'habitacle de la voiture, dans l'avion aussi, d'ailleurs la question de l'avion est introduite par une télé, hein, le cadre d'une télé, etc. Un cadre dans un cadre, etc. Fixité. Hein. Très fort. Et c'est bien sûr cette espèce de manière d'être figé, hein, ça touche aussi d'ailleurs à son statut social. Hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui est installé, hein, il y a une espèce de confort. Hein. Il y a un confort dans lequel il n'y a pas de vie, hein, c'est mortel. Bon. Voilà, alors. Il met bien en mouvement, hein, en un sens. C'est bien un principe actif, c'est le prince. C'est lui qui porte d'abord, en un sens, qui porte le récit. Il raconte pas. Enfin, il propose tout de même, hein, il propose des récits possibles, qui sont des récits de colère, des récits de haine. Il invite à faire saigner hein, chez les autos. D'ailleurs, en réponse, la femme va dire qu'elle veut que les gens restent en prison, saignent, etc. L'appel au sang. Bon. Mais c'est au fond, lui, comment il intervient. Il fait parler les gens, mais il les fait parler il leur fait dire c'est la haine, c'est-à-dire au fond ce qu'il produit c'est la déliaison. Et c'est la première scène qu'on a chez les Walker, chez Wendell et Risa Walker, où il va, vous savez, c'est bien, c'est parfait Wendell. Il dit ça quand Wendell, qu'est-ce qu'il fait Wendell? Il dit tout le mal, il est dans un ressentiment, dans une douleur et dans une haine, de chacun des membres de la communauté. On comprend qu'ils sont en train de passer en revue chacun des membres de la communauté. Et Wendell, voilà, des charges à haine hein, sur chacun des membres. Et donc, qu'est-ce qui s'inscrit? C'est la déliaison complète. C'est ça qui produit. Bon. Alors, vous voyez, ça, c'est un risque. En fait, l'avocat, là, avec lui, se mesure un risque. Un risque qu'on encourt tous dans le rapport à l'objet perdu. Proche, mon père. Et c'est à ce risque-là qu'il s'agit d'échapper dans le film, par ailleurs, pour d'autres personnages. Bon, alors, je vais insister un petit peu sur. Il y a bien un mouvement chez, en même temps, il y a une fixité absolue, mais en même temps, il y a une forme de. Oui, il y a un principe actif. Qui est celui d'une haine, qui est celui, disons, d'une pulsion de mort, formidable, etc. Bon. Vous voyez, il y a quelque chose qui est curieux, si on y pense, c'est que c'est quand même, il a un partenaire, il a un associé privilégié dans le film. C'est pas Wendell au début du film. Non, c'est Sam, c'est le père de Nicole. C'est avec lui qu'ils font affaire, au fond, fondamentalement. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils ratent en même temps, c'est leur échec commun, en somme. Bon. Qu'est-ce qu'il fait alors qu'est-ce que fait cet avocat représentant la loi avec ce père qui transgresse l'interdit d'inceste? Quel type de loi représente-t-il cet avocat pour pouvoir avoir une forme de lien pervers avec ce père-là Bon, je vais revenir après sur la question du droit, mais ce que je veux dire, c'est que le lien, il est plus profond, je crois, qu'on peut le penser comme ça à prime abord. Parce que le film va nous proposer, mais au fond, à partir, dans le sens du personnage de Nicole, à partir du personnage d'un vrai père, qui est Billy, à partir du personnage de la mère du film, la madre Dolorosa, Dolores, qui est la vraie mère, elle n'a pas d'enfant, elle est la mère de tous. Comme Billy n'a plus d'enfant, et c'est le père, indéniablement, c'est une formidable figure de père. Bon. Voilà, on va avoir une image de la cesse comme une image de l'accident, mais ils sont produits à partir de ces personnages-là. Je vous dis ça parce qu'en fait, je crois qu'il y a, dans le film, il y a un autre inceste. Que l'histoire de cet avocat avec sa fille, mais celui-là, en un sens, qu'on a sous les yeux, mais qu'on ne voit pas. Dont on ne se détache pas. Parce que quand même, cet homme, dans cette fixité-là, à qui il est fixé. Donc il n'a aucun lien, il n'a pas de femme. Il n'a strictement aucun lien. En fait, si, il a un lien absolu, avec sa fille. Elle peut l'appeler n'importe quand. C'est un lien très, très... ça fonctionne à la pulsion de mort, mais c'est un lien. C'est quoi ce lien enfin, c'est... Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Donc, l'histoire, c'est cette scène, le couteau qui tient à côté de ses yeux, de sa gorge, qui doit peut-être lui enfoncer dans la gorge. Je veux dire, qu'est-ce que ce père va enfoncer au fond de la gorge de cette petite fille, jusqu'au sang? Qu'est-ce qui travaille fantasmatiquement? pas besoin de passer par les sermons très forts sur la façon dont les enfants se présentent différents moments, la façon dont on fait des enfants, etc. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'est fait cette fille en permanence? Elle s'enfonce des seringues, hein, des lames, quoi. Et à la fin, elle va aller jusqu'au sang. Puisqu'à la fin, c'est son sang qui est infecté. Elle sera allée jusqu'au bout de ce que le père... Ouais. Cette fille non plus, elle n'a pas de lien. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de... Ouais, y a... Dans rien de ce qui nous est dit, elle a habité un lieu, elle a s'est investie dans quelque chose, ouais. Une fille porno, peut-être. Quelle est la seule personne... Et le seul homme qui existe dans sa vie, mais qu'elle appelle comme ça, c'est son père. Il cesse de rejouer cette scène, hein, de l'hôpital. Qu'est-ce qu'au fond elle l'appelle? C'est ça qui marche. C'est qu'il vient quand il faut qu'elle aille en clinique. Ouais, c'est la scène de la voiture. C'est terrifiant. Hein, c'est inconscient. Mais c'est ça qu'il y a là. Bon, et il y a quelque chose, bien sûr, d'une pulsion sadique. Et il y a un sadisme. Et c'est là qu'il est le principe actif de l'avocat. Il y a un sadisme terrible. Et il faut comprendre que toute cette mise en morceaux du récit au début, c'est aussi un travail de boucher, quoi. Ça peut s'entendre aussi du côté, ouais, de ce que fait Nietzsche. Et vous voyez bien, bon, il y a la scène avec les Wendel d'abord, hein, et là, ensuite, ils sont en train de se déchirer dans ce couple. Lui, il parle avec sa fille, ça, la fille. Et Wendel dit, et là, ouais, tu as entendu ce qu'il a dit, c'est bien, Wendel, c'est parfait. Et l'autre, il parle avec sa fille. C'est en lien, en fait. Mais encore, quand il est chez les Otto, hein, c'est terrifiant, ce comportement qu'il a. Je sais que c'est pas le moment, mais il répète plusieurs fois cette formule. Mais je sais qu'il faut qu'on parle. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche comme s'il était dans une espèce de tanière, comme ça, il va avancer à un moment à quatre pattes, comme ça, comme une bête, quoi. On est complètement du côté de la pulsion. Et comme ça, il va se mettre à parler du sang, etc. Mais il y a une scène qui est terrible. Il y a bien une image en réalité qui est produite de ce qui est en jeu pour lui. Et cette image, on l'a en plein écran. C'est le passage où dans le film on a la vidéo. C'est l'intérieur de la camionnette que filme Nietzsche. Vous avez vu, il y a quelque chose qui est dit, qui est insoutenable, quoi, qui est obscène. En fait. Il y a avec son éclairage comme ça, je veux dire, c'est rougeoyant, il y a des restes, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas si c'est des restes de chair, d'habits, etc. Et à côté, c'est comme s'il regarde, il voulait regarder à l'intérieur des cadavres, quoi, ouais, d'un côté comme ça. Avec cet effet de réalisme accru pour nous, parce que nous-mêmes, on a affaire à cette vidéo. Ouais. Il y a un côté bouche. Ça, c'est la pulsion qui anime Nietzsche. Bon, et c'est la seule image qu'il peut produire. C'est de voir à l'intérieur des entrailles. Bon. Alors, vous voyez, lui, c'est un mort vivant. Son corps défendant, hein, c'est pas la morale. Hein. Voilà. Et il est pris dans cette fixité absolue. Ouais. Bon. Alors, je vais y revenir, mais pourquoi il fait lien aussi avec l'autre père incestueux?
sur la question du droit. Je vais juste dire là quand même un mot, c'est que Sam, le père de Nicole, bon, donc il jouit de sa fille. Là aussi, donc, un lien sans dehors. Mais il faut prendre un lien absolu, 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 étymologiquement, c'est-à-dire sans lien. Hein. C'est ça ce rapport, hein. C'est un rapport qui détruit le rapport, en fait, hein. Qui se détruit la subjectivité. C'est la mort de la subjectivité. Mais qu'est-ce que lui propose l'avocat? Qu'est-ce qu'entend ce père incestueux, Sam? De jouir de ses droits? Espèce d'usufruit, de jouir financièrement de ses droits sur le dos de sa fille, donc de continuer à jouir de sa fille. C'est toujours une affaire de jouissance. Elle est toujours en position d'objet de sa jouissance. C'est là qu'il y a ce fait, le passage, le lien, le contact avec la question du droit, de ce droit-là. Droit procédural. Et ce que va affirmer Nicole, elle, c'est la dimension de l'accident, l'accidentalité pure. Il y a de la contingence. Il n'y a pas que de la nécessité, il y a de l'accident. Sortir de cette espèce de position d'objet dans laquelle on est destiné à la jouissance de l'autre. Il y a de l'accident. Et c'est pour ça que la question de l'accident, c'est ce qui est en même temps la source de l'inceste. Bon. Alors. Face à Michel, il y a des gens, hein, comprends, hein, qui refusent cette mise en récit-là. Proposé par l'avocat, qui refuse ce principe à la fois incestueux, donc fusionnel, et en même temps principe de déliaison absolue. Bon, évidemment, c'est donc Billy, Dolores et Nicole. Bon, mais c'est pas sans ambiguïté. Hein, c'est pas simple. Tu veux dire que quand même, bon, il y a quand même une scène qui est très très curieuse. Hein. C'est la scène où Billy Ansel fait l'amour avec Risa. Hein, cette scène. Et c'est très curieux parce que quand il fait l'amour avec Risa, il y a un fond musical. Ce fond musical, c'est la chanson que chante Nicole. Et deuxièmement, la fin de cette scène, c'est une scène assez courte, Billy Ansel fait glisser la culotte jusqu'à ses pieds. La scène est coupée, et ce qui suit, c'est Nicole qui fait baisser son pantalon. Ouais, donc il y a une circulation. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un autre élément, d'ailleurs, c'est que Billy Ansel veut justement revenir et il propose à Nicole les habits de sa femme. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est très troublant. Enfin, il lui dit que s'il était encore vivante, enfin, il lui aurait donné quand il serait devenu trop juste. Et il est troublé par ce qu'il a dit lui-même. Il ne comprend pas non plus, mais elle relève. Et pourquoi des habits peuvent devenir trop justes? Parce qu'on grandit. Donc parce qu'on est une enfant. Ouais. Alors, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui circule là.
Alors, c'est pas qu'il soit absolument complice, parce que c'est un personnage beaucoup trop positif par ailleurs. C'est quand même une vraie figure de père. Mais peut-être qu'il y a quelque chose quand même voyez, de cet inceste qui vient. Infectité, qui se communique, hein, au reste du lien social, qui vient le pervertir, circulation de celle-ci, quand même. Bon, parce que quand même, il est complice, il voit pas que, etc. De fait, quoi. Oui, avant d'aller vraiment vers la question de l'autre récit, des autres récits, hein, et vers la possibilité de produire une image, hein, des morts, j'y vais graduellement, parce que je crois qu'il y a, en passant par les ambivalences, par toutes les dimensions de réversibilité possibles. Esthétiquement, il y a une chose qui alors esthétiquement, là, hein, qui dans tout le film unifie, hein, unit, puisque la question ici c'est du lien, hein, c'est ça que je cherche là, hein, qu'est-ce qui fait lien, qu'est-ce qu'il y a la possibilité d'un lien, hein, et d'un lendemain, hein, pour les vivants. Esthétiquement, il y a une chose qui unifie, c'est la neige. Là, c'est blanc. Vous savez, là, d'ailleurs, la ville se recouvre de neige. Il y a un sentiment de communion, ouais, les bruits sont étouffés, etc. Tout est lié, ça fonctionne en fait. Bon, et la neige, effectivement, il y a quelque chose de feutré, hein, qui est quelque chose comme, comment dire ça, vous voyez, qui est comme, comme on marche à pas feutré quand on rentre dans une chambre mortuaire, vous voyez, enfin. Oui, ça fait du bien. Et en même temps, cette neige, ses valeurs, il y a une réversibilité de ses valeurs. Hein, parce que cette neige, elle est crissante aussi. Cette neige, c'est aussi la glace. La glace qui s'est enfoncé le bus. Cette glace, c'est la mort aussi, hein, qui fige. Oui, mais cette neige, c'est aussi la neige des contes pour enfants. D'ailleurs, ça invite, on sait bien quand il y a de la neige, nous-mêmes, ça invite à se retrouver chez soi, à se recueillir en soi-même. Ouais. Je veux dire, un Noël avec la neige, c'est quand même autre chose qu'un Noël sans neige. Je ne dis pas ça par hasard, parce que il y a à la fois la dimension du conte, mental, hein, mais on a aussi une mise en scène d'un autre récit mythologique presque religieux. Hein. Mais je veux dire, vous voyez, on a la neige, on a l'étable, hein, la grange, on a la paille, on a les bougies, on a un personnage qui a presque les allures du Christ. La bonne nouvelle. Mais, vous voyez, il y a voilà, hein, cette espèce de réversibilité, hein, d'horreur au cœur, il y a ces valeurs de la neige, mais au cœur du conte aussi, hein, du mythe religieux. Il y a quelque chose qui est dans de la décréation. Je vais revenir sur la question de la neige, concernant l'accident, bien sûr. Bon, mais quand même, voilà, maintenant, peut-être maintenant de manière plus tranchée, plus positive, quand même, on voit bien que, voilà, dans tout ce parcours, il y a des personnages qui essaient de se saisir des morceaux, de ces morceaux épars, pour pouvoir en faire un récit qui ne soit pas le récit
de Mitchell, qui ne soit pas le récit de Wendell, qui n'est pas un récit d'ailleurs. C'est très intéressant le récit. Qui raconte? On a Nicole et on a Dolores. Et puis Billy ne raconte pas, lui, parce que lui, c'est celui qui a vu. Lui qui porte l'image. Alors, ce qui est très frappant pour moi dans ce récit, c'est regarder le récit de Dolores. Les enfants qui montent, qui descendent des sentiers, qui viennent rejoindre la route, qui étaient comme des baies rouges que je recueillais dans mon panier. C'est-à-dire, c'est un récit de conte. La forme de son récit vient rejoindre le récit de Nicole. Je dis, bon, c'est important ce conte, cette comptine avec cette valeur de reprise, de répétition. Comptine qui fait qui donne toute sa valeur à la présence très forte de la musique. La musique médiévale, tout ça, ça commence par là. Pourquoi ? Parce que, vous savez, Mason, le fils, demande à Nicole, quand elle commence à lui raconter l'histoire, qu'est-ce qu'une comptine ? Et elle lui répond, c'est une chanson, c'est comme une chanson. Vous voyez, il y a déjà, la musique est déjà une manière de mettre en récit. Alors, on a plusieurs musiques qui contrastent. Bon, voilà, donc un conte, ce conte de joueur de flûte, de Amiens. Bon, donc, qui est venu délivrer la cité des rats, de la vermine, qui n'a pas été payé comme il le devait, et qui du coup punit la cité. Bon, cette question des rats, d'ailleurs, elle est nommée, dans ce conte, elle est nommée juste après, une scène après, que Mitchell, justement, a parlé de sa fille, en disant que voilà, nos enfants errent dans les rues parmi les rats, les vermines, etc. Dans le conte. Bon. Alors le conte, un conte pour enfants. En même temps, quand même, je crois qu'on peut entendre que nous avons tous un enfant en nous. Le conte, voilà. Ouais. C'est ce qui permet de mettre en récit, c'est ce qui permet de. C'est quoi un conte ? C'est pour aider. Ouais, c'est rapporter les propos de Dolores. Ce sont des rythmes, c'est des sonorités, ce sont des métaphores, ce sont des images. C'est une mise en image possible. C'est en même temps une manière de pouvoir réinscrire un ordre temporel, une temporalité possible. Ce qui s'oppose, qu'on ne soit pas englouti par les morts. De distance. Il y a un avant, il y a un après. C'est le principe de tout récit. En même temps, le conte ici, j'ai envie de dire, c'est. Voilà, il propose les choses sur un mode imaginaire. Possibilité de produire une image. Et ça dit, il n'y a pas de désir sans imaginaire du désir. Et quand même, le fantasme, le délire aussi. Protège du réel quand le réel est insoutenable. Quand le réel est mortel. Voilà, donc on a ce récit-là. Et ce récit, on sait bien que c'est lui qui va clore. Et qu'à la fin, même le personnage de Mitchell va être. Elle va dire Je me demande si, quand tu as vu Dolores, c'est Nicole qui parle, et elle poursuit son récit, et elle va fermer le livre. Donc, vous voyez, à la fin, c'est quand même ce conte qui gagne. Bon, alors. qui m'intéresse là, c'est que voilà, c'est une mise en image. C'est ce qui va permettre la possibilité d'une image. Et si on en vient au récit de l'accident, hein, des images de l'accident, elles s'ouvrent par le récit de Dolores. Et on voit le car, hein, qui a ses différentes stations, hein, qui grimpe comme ça. Alors, je vais en venir à cette image de l'accident. Et vous voyez, on va mettre longtemps pour y arriver. J'ai dit au début que, au fond, tout le film fonctionnait presque comme un hors-champ, hein, un angle mort. Mais je veux dire, l'accident lui-même, il est filmé, on ne le voit presque pas, c'est presque toujours du hors-champ. Je veux dire que d'abord, on voit quoi? La caméra rentre dans le bus, hein, de Dolores, elle rentre comme ça, elle passe à travers le couloir, jusqu'aux enfants qui font signe au père. Et la caméra passe dans la voiture du père, qui fait signe aux enfants. Il fait signe aux enfants, et puis il voit quelque chose de terrible, sa main tremble comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'accident, on le voit d'abord dans le regard du père. On a juste un plan ensuite où on voit le bus qui se met à glisser dans la pente. Et on repasse du côté du père, qui avance, qui freine, qui sort de la voiture, qui s'approche de nous, hein, au centre de la caméra, et qui regarde par champ. Et là, on a à nouveau une image du bus, hein, qui est déjà presque, hein, qui continue à glisser, mais qui est déjà presque au milieu de la gelée, puis qui se met à s'enfoncer. Alors cette image, elle est... Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas, pour moi cette image, c'est à la fois l'image réelle, si vous voulez, et en même temps c'est une image mentale. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, c'est pas, on n'est pas dans les hurlements, on n'est pas, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les effets du film catastrophe. On est au contraire dans, vous voyez, à la fois, ça fait pas de bruit, et il y a quelque chose qui, à la surface de cette glace, va craquer. Qu'est-ce qui craque? Vous voyez, bien sûr, c'est la glace, mais je veux dire. C'est ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est quelque chose de l'image qui craque. Aussi. Vous voyez, parce que ce à quoi on touche, bien sûr, c'est à l'irreprésentable. Vous voyez cette neige, hein, cette glace. Et bien, j'ai envie de dire, c'est comme un fond d'écran. C'est comme un écran blanc, en fait. Et ce qui est crevé, ouais, c'est la possibilité de la représentation. C'est ça qui est donné à voir. Ce qui est crevé, c'est la possibilité de se représenter quelque chose. Cette glace, c'est l'écran. C'est exactement comme dans un rêve que propose Freud dans l'interprétation des rêves. Sauf qu'ici, c'est une sorte de feu. Connu, Père, ne vois-tu pas que je brûle? C'est Lacan qui a dit ça. Très vite. Hein. C'est exactement le même fonctionnement. Un père a perdu son fils qui est mort, mais qui est resté longtemps malade, qui a suivi. L'enfant a été habité longtemps. Le père et l'enfant est sur son lit de mort, entouré de bougies, et puis le père, donc le veille, mais il est très fatigué à un moment, il va dormir dans la pièce à côté, et il doit y avoir, je crois, une femme qui doit, une personne âgée qui doit veiller, continuer à veiller le jeune enfant mort. Et puis dans le rêve du père, eh bien, il rêve que son fils, lui parle. Et son fils lui dit, Père, ne vois-tu pas que je brûle? Et il n'arrête pas de lui répéter ça. Père, ne vois-tu pas que je brûle? Père, ne vois-tu pas que je brûle? Ça dure. Ça dure jusqu'à ce que le père se réveille. Découvre la chambre en feu. Donc, parce que des bougies. Donc il y a quelque chose du réel dans l'image, mais en même temps, vous voyez, il y a quelque chose. Hein, c'est-à-dire, tant qu'il rêve, hein, et tant qu'il ne se réveille pas, c'est que l'enfant est vivant, il est vivant puisqu'il lui parle. Mais en même temps, à l'intérieur de l'image, il y a la déchirure de l'image. C'est-à-dire que, à l'intérieur de l'image, il y a quelque chose de l'imaginaire, qui est un imaginaire du lien et du désir à un vivant qui se défait, qui se déchire. C'est si simple. Mais c'est, je crois que c'est la scène ici, le temps du feu mettant la glace, et c'est exactement la même chose. image de l'irreprésentable, c'est pas une image de l'irreprésentable, ouais, c'est une image qui est au bord de l'image.
Une image presque spectrale.
Bon, et
voilà.
Vous voyez ces personnages, hein, si on regarde. Vite, maintenant la question va voir, pourquoi je veux conclure. C'est tous ces personnages-là, hein, qui produisent le récit et qui permettent qu'on accède à l'irreprésentable, hein, qu'on fasse lien quand même avec ça. Sont des personnages qui inscrivent en eux une image des morts. Alors, c'est vrai pour Billy, hein, bien sûr. C'est vrai bien sûr aussi pour Dolores, hein, qui fait tout son récit avec, non pas une photo de l'ensemble, mais avec une photo pour chacun des enfants morts derrière elle. Et sa parole se soutient de ces morts qui la soutiennent, en lien avec chacun. Nicole, bien sûr, hein, la grande conteuse, à la fin, c'est elle, hein, qui tient le récit. Bien sûr, fait lien avec les morts fondamentalement, et son lien fondamental, mais j'ai envie de dire, il est inscrit dans son corps. Ses jambes perdues, c'est-à-dire qu'elle est à la fois du côté des morts et du côté des vivants. Hein. Elle est à la fois la chair vivante et la chair morte. Et c'est elle qui fait le passage. De même, j'ai envie de dire Dolores, avec son mari, hein, handicapé, hein, déjà précède. Hein, ça. Avec cette parole qui est entre le, hein, entre le cri et la parole articulée. Voilà. Chez Billy, d'ailleurs, c'est magnifique, parce que juste après l'accident, qu'est-ce qui se passe, hein, on a une image de Mitchell dans l'avion qui va raconter, hein, l'histoire de sa fille. Et on va retrouver les plans, hein, du tout début du film, où on le voit dans son cottage, hein, avec sa femme, l'enfant, etc. On voit les plans dans la voiture, et puis ensuite on a un dernier plan dans lequel ça va très vite, hein, mais on voit en fait la mère de... la mère de... comment ça s'appelle, de Zoé, hein, Zoé, la vie, hein, en grec, hein. Zoé, ça signifie la vie, hein. Zo, hein. Bios. Voilà, la mère de Zoé qui soulève Zoé comme ça dans le ciel, dans un champ de broussailles. Puis hop, on passe comme ça, la caméra suit ce mouvement, monte au ciel, et puis dans ce cadre, vient apparaître au centre, avance, Billy, qui regarde, qui nous regarde, nous, comme si on était en bas, et en fait, ce qu'il voit en bas sont ses enfants morts, hein, entre couverts d'une série. Juste après cette scène, on va voir les deux enfants qui vont venir devant la caméra, qui vont passer. Et on retrouve Billy dans la pièce dans laquelle il attendait Lisa, hein, actuellement. Voilà, donc vous voyez, hein, ces enfants qui viennent dans du rêve, hein, lui dire au revoir. Là aussi, ouais, ce type d'image très particulière, hein, qui fonctionne comme déchirement en même temps d'image. Bon, alors, vous allez me dire quel est le rapport avec la politique, du côté des morts, la possibilité d'une représentation des morts, de la mort. J'y vais, très vite. Mais c'est que, au fond, je vais vite pour en parler après, c'est que, si vous voulez, qu'on soit du côté de l'inceste, hein, ou qu'on soit du côté de, au fond, ce droit purement procédural. Hein. Un droit procédural, vous voyez bien, c'est droit libéral. Il n'y a pas, si vous voulez, un droit procédural, c'est concevoir le droit comme le code de la route. La question de ce qui est juste, la question de ce qui est bien, est évacuée. On est dans un droit, dans un formalisme. Bon, on est juste dans des rapports de contrat, on est des contractants et chacun peut, voilà, essentiellement faire ce qu'il veut, dans la mesure où on a les moyens, engager un avocat, etc. Et au fond, défendre, eh bien, sa liberté définie comme vie pure, hein, la liberté, c'est-à-dire faire ce qu'on veut. Hein. C'est comme ça qu'on définit ordinairement aujourd'hui la liberté.
définition absurde, mais la définition commune. C'est le droit libéral. Bon, mais on voit ce que ça produit, la déliaison absolue. La déliaison aussi. Donc la déliaison du côté de la cesse, la déliaison du côté de ce droit. Dans laquelle il s'agit seulement pour chacun de défendre son droit hein, contre l'autre. Voilà. Et bien, il y a un autre type de loi. Une troisième figure de la loi dans ce film. Je l'ai dit, c'est celle, et elle est incarnée fondamentalement par ce personnage, peut-être qu'il m'en parlait, mais par Billy en particulier. Cette loi, elle retrouve au fond ce que Mauss, dans son essai sur le don, a dégagé. C'est-à-dire ce qui constitue, je pense, le fondement de notre humanité commune, à savoir donner, rendre, recevoir. Ce triptyque-là, donner, rendre, recevoir. Ce qu'il vient proposer, lui d'ailleurs, hein, au père, justement. Voilà. Si c'est une question d'argent, je peux payer pour Nicole, je peux donner l'argent à mes enfants. On faisait comme ça autrefois. Dans ce lien, hein, d'une solidarité concrète fondée sur le bien concret, sur un bien commun, hein, un bien vécu, centré sur la question d'un échange. Sur le dos, la capacité à recevoir et à rendre. Voilà. Et ça, c'est pas du tout, évidemment, hein, ce droit hein, qu'incarne l'avocat. Quoi. Voilà. Bon, bah, ouais, donner, rendre, recevoir, c'est aussi rendre quelque chose au mort. Hein. Et on veut savoir en recevoir quelque chose. Le lien, c'est là. Certains dons de la mort, certains dons des morts. Voilà, peut approfondir un sermon. Ça fait pas mal plus longtemps. Donc,
je voudrais revenir sur l'image de l'accident, là, comme vous dites, là, qui crève l'écran, là, qui crève l'image. J'étais surpris par les scènes avant qui nous préparent. C'est filmé d'un avion, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça se fait comme ça.
Oui.
Et j'ai l'impression que ces séquences-là, on est au-delà de la mort. Oui. C'est comme une âme qui, vous savez, l'idée de l'âme qui monte comme ça, qui voit du ciel et qui revit l'âme des enfants. Quoi. On est dans la mort des enfants qui voit.
Ouais, je suis d'accord. Je suis
assez... Il y a quelque chose, parce que tout le reste est à du sol, je veux dire. Bon. Et on est préparé là. Il y a un au-delà de la mort pour nous expliquer, pour nous faire voir la mort.
Oui, je suis d'accord. Alors d'ailleurs, le titre anglais, hein, c'est The Sweet Hereafter. Et ça a le sens de.
Hereafter
va avoir le sens de. Alors, d'après. Au-delà, en fait.
Oui, au-delà.
Oui, la question du. Alors, on n'arrête pas d'en passer par le ciel.
Hein. C'est ça, voilà.
Bon, alors, il y a bien sûr l'avocat dans le ciel, là, mais. Bon.
Mais c'est lui qui est le moins dans le ciel. C'est nous qui sommes dans le ciel par les plans qu'on suit la route.
Oui, enfin, ça, on arrive comme ça, par le haut, effectivement, oui. Hein, comme une espèce de...
Si on peut dire.
Voilà. Oui, il y a beaucoup de liens entre... Enfin, pas mal de scènes. Le lien se fait par effectivement, le passage par le ciel.
Oui, on est au-delà de l'accident, on est au-delà de la mort. Donc,
oui, en un sens.
Et c'est... Voilà, et c'est vous savez, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temporalité. Et, hop, et donc ils revivent leur mort, quoi. Quelque chose, quoi. C'est des âmes qui montent au ciel qui revivent leur mort.
Ouais,
on nous met dans ce statut-là.
Je ne sais pas si on n'est plus là. Peut-être c'est une manière aussi de je ne sais pas. Enfin, c'est peut-être de. Comment dire ça, d'avoir une espèce de point de vue possiblement synoptique, quoi, hein, qui embrasse ces choses, qui fascine entre
Mais je crois que ça tient à ce que vous évoquez avec le rêve de Freud. Vous voyez c'est comme Dieu. C'est un rêve qui fait le récit de la mort, de l'accident.
Ah oui, d'accord, ok.
Oui, ce que je veux dire.
D'accord. Ouais, c'est... Oui, vous avez raison, il y a une dimension sûrement onirique là-dedans. Ouais. Il y a une dimension, il y a des choses qui flottent hein, dans le film, voilà. Hein, qui sont très flottantes, effectivement. Et très... La première scène, d'ailleurs, le couple dans le lit aussi.
sais pas du tout la situer très longtemps, comme ça, flottante. Je suis d'accord, il y a beaucoup de choses qui flottent et que la valeur du ciel, effectivement, est une dimension onirique.
C'est très récurrent.
Oui, oui, absolument, absolument. Ouais. Je repense à cette scène du début, c'est très très beau comme c'est filmé hein, d'ailleurs. Hein. Mais, vous savez, hein, c'est générique quoi. La caméra comme ça, c'est un travelling. Hein. On suit voilà, le plancher, hein, à l'ensemble des lattes. C'est une magnifique latte, très large. Et on a des belles veines de bois, hein, etc.
Des nœuds,
très chaud,
il y a des
mines, des nœuds, etc. Et on voit bien que ça, c'est une inscription du temps là, hein. Il y a une durée possible. Jusqu'au lit, jusqu'à la couche.
Et le lit, c'est les seins de la mère avec l'enfant qui, entre le père et la mère, là, il y a quelque chose de princestuel, quoi. Il y a quelque chose de...
Je ne ressens pas. C'est plutôt très très beau, ça, au début.
C'est beau, mais on sent...
Ah oui, je sais pas.
On est proche de l'interdit, quoi. C'est au moins quelque chose qu'on déconseille.
Ouais, je sais pas.
On peut le voir aussi comme un point de départ de les lattes du parquet, les veines, pour moi aussi, les veines, le sang, et le lit, la cellule familiale. La maternité, le ventre, le départ de la vie, et après, ben, les destins, par rapport à...
Oui, il y a quelque chose, oui, ça. Oui, je suis d'accord. Quelque chose de matriciel, pour les temps.
Oui, l'originel.
Oui, absolument. Oui, c'est pour ça, c'est très blanc, tout ça.
Oui, très pur.
Voilà, oui. C'est d'accord. Oui. D'autres questions? Enfin, question de la loi, je suis allé un peu vite et de la politique, je suis allé un peu vite.
Non, c'est clair.
C'est clair.
De toute façon, on voit bien si ces trois lois. On voit bien la loi libérale, la loi de la société, la vraie loi. Quoi. Il y a celle qui constitue la société, la dernière de la 16, et il y a la loi où les hommes s'arrangent, quoi, à la Rousseau. Quoi. Il le dit à la fin, on règle nos problèmes ensemble, quoi.
Ouais.
C'est clair.
Ouais. C'est pas beaucoup, effectivement.
C'est pas les questions, pourquoi on pourrait avoir fait de Billy un veuf, c'était pour qu'il incarne que la figure paternelle.
Pourquoi en avoir fait
Billy, il est bien veuf.
Oui, Billy.
Oui, il est veuf, oui, tout à fait.
Il est veuf et il perd ses enfants, donc... C'était quoi pour que du coup, en tant que veuf, il apparaisse comme la figure paternelle. Et il n'y a pas du coup de mère.
Ben, c'est frappant de voir que la vraie figure de mère, elle n'a pas d'enfant, et que la grande figure de père, elle n'en a plus.
Oui, donc c'est pendant dans le reste finalement.
Alors. Ah, ouais, je pense. Ouais.
D'accord.
Alors je pense aussi que.
Finalement, un veuf qui perd ses enfants, mais ça peut, ça peut être le bateau souci, quoi, un peu.
Ouais, mais justement, on est avec lui, on n'est jamais de ce côté-là. Hein. Oui, ce qui est frappant, c'est que c'est un personnage qui a déjà connu, au fond. Hein, voilà. C'est pareil pour Nicole, au fond. Elle a déjà connu, hein, elle a déjà touché à cette forme de mort qu'est l'inceste. Quoi. Donc, ils sont eux, déjà une forme d'après-coup, hein, qui leur permet de voir.
Ils savent. Ouais. Ils savent quelque chose.
Ils savent déjà quelque chose. La répétition fait qu'ils en connaissent quelque chose.
D'où l'opposition entre Billy et l'avocat.
Ah oui, c'est sûr. C'est très net tout de suite.
Juste pour ta remarque concernant Billy, quand elle lui donne l'événement, en lui disant parce que ça ne lui irait plus,
ouais.
Tu as interprété comme quoi sa femme était aussi. Moi j'aurais dit, je pensais à l'autre truc, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de vieillir.
Non, mais sauf qu'il dit quand ses habits seraient devenus trop justes.
Ah oui, trop juste.
Bon, c'est vraiment trop juste. Il y a un truc qui est.
C'est l'enfant qui grandit.
Ouais, il y a un truc qui est.
J'ai pensé aussi à trop juste à une nouvelle maternité aussi. Sa femme, elle a peu le temps de vivre sa vie. Elle a eu des enfants, déjà deux enfants. Mais c'était aussi peut-être.
On grossit, tu vois, un troisième enfant.
Et c'est, c'est aussi la féminité bafouée de Nicole. Il lui transmet des vêtements d'une femme qui est décédée, qui a elle-même été mère, qui avait une famille apparemment qui tenait la route. Et Nicole, elle aura a priori peut-être pas ça, quoi. Donc,
je voyais,
en même temps, comme il y a quand même cette scène de l'évain, des grands culottes.
Oui, voilà, avant, pour vous, vous l'avez lié comme ça.
Bon,
merci Thierry.
Merci Thierry.
Merci beaucoup.